Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'Allemagne sous le choc ce matin. Au moins 9 personnes ont été tuées hier soir dans 2 fusillades à Hanau, près de Francfort. Des bars à chicha visés. L'auteur présumé a été retrouvé mort chez lui. Quelles étaient ses motivations? Règlement de compte, terrorisme d'extrême droite. Nous irons à Berlin dans un instant pour tenter d'y voir plus clair.
Suivre le casse-tête des 27 pour boucler le premier budget de l'Union européenne sans les Britanniques.
Avec 75 milliards d'euros en moins et de nouvelles priorités, transition climatique, numérique, défense, la PAC ne sera-t-elle pas la victime de cette nouvelle donne? Inquiétude chez les agriculteurs français, relayée à Bruxelles par des macronistes, vous l'entendrez.
Et puis le monde rural et la question de son attractivité à l'agenda du gouvernement, emmené par Édouard Philippe, comité interministériel aujourd'hui dans les Vosges.
À la une encore, la 10e journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestants seront-ils au rendez-vous en cette période de vacances scolaires? Peut-être le calme avant la tempête, car les syndicats réfléchissent à une grève générale en mars.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, puisque l'on évoque la fermeture de la centrale de Fessenheim. Comment démantèle-t-on une centrale nucléaire? Nous poserons la question à Bernard Laponche, il est ancien ingénieur au CEA.
La traque a duré jusqu'à 5h du matin dans les rues d'Hanau près de Francfort pour tenter de retrouver l'auteur des fusillades qui ont visé hier soir des bars à chicha à Hanau, donc cette ville de 90 000 habitants dans le centre de l'Allemagne. 9 morts dont une femme et 5 blessés. Selon le journal Bild, les victimes sont d'origine kurde. On ignore encore pour l'instant les mobiles de ces attaques, même si depuis plusieurs semaines le contexte inquiète les autorités en Allemagne avec la menace d'un terrorisme d'extrême droite. Les autorités redoutaient donc des attentats de cette mouvance. Ludovic Piétenu, vous êtes le correspondant de France Culture en Allemagne. La police allemande a donc donné l'assaut il y a 2 heures au domicile d'un homme qui a été retrouvé mort.
Il s'agit bien du corps de l'auteur de cette double fusillade. La police est formelle et il n'y a qu'un seul auteur. Retrouvé sans vie à son domicile, il y avait à ses côtés un autre corps encore non identifié. Il était 22h hier soir dans le centre-ville d'Hanau. Des témoins ont entendu 8 ou 9 tirs devant le Midnight, un bar à chicha. La police comptabilise ici au moins 3 morts. Très peu de temps après, 2,5 km plus loin, de nouveaux tirs résonnent dans la nuit dans le quartier, cette fois de Kesselstadt, devant un autre bar, l'Arena, situé au pied de tours d'habitation. Ici, au moins 5 morts. D'importants moyens de police sont déployés pour retrouver une voiture de couleur sombre, selon les témoins, un hélicoptère décolle de Francfort, la capitale financière de l'Allemagne, située à seulement 25 km à l'ouest. Des renforts arrivent même de la région voisine de Bavière. Cela va durer toute la nuit jusqu'à 5h du matin, épilogue de cette fusillade, avec la découverte du corps du suspect dont on ignore les motivations. La police a sujet reste très prudente, ce peut être un règlement de compte local ou bien la thèse d'un crime raciste visant 2 bars à chicha dans un pays qui fait face depuis plusieurs mois déjà à une recrudescence de ce que les médias allemands appellent la terreur d'extrême droite.
Ludovic Piétenu à Berlin pour France Culture.
7h03, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. La négociation entre les 27 s'annonce tendue.
Pour boucler le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, les discussions s'ouvrent cet après-midi à Bruxelles, mais elle pourrait bien durer longtemps car le président du Conseil n'a pas fixé de limite à ces négociations. Plus âpre encore qu'il y a 7 ans, car il faudra faire sans le Royaume-Uni, deuxième contributeur de l'UE avant le Brexit, 75 milliards d'euros en moins depuis le Brexit pour financer donc des ambitions écologiques, numériques, les nouvelles priorités encore en matière de défense et de renforcement des frontières extérieures. Plusieurs pays du Nord et l'Allemagne veulent limiter les frais. La PAC, la politique agricole commune dont la France est la première bénéficiaire, pourrait être rabotée. Mais pour l'Élysée, il est hors de question de pénaliser les agriculteurs à qui l'on demande de s'adapter au dérèglement climatique. Un casse-tête suivi à Bruxelles par Angélique Bouin.
Dans le document qui servira de base de départ de la négociation, avec 14% de baisse du budget, la facture pour les agriculteurs européens est lourde. Certes, le diable se cache dans les détails avec le système complexe des ventilations par programme et par pays. Les agriculteurs français ne perdront pas autant, affirme une source diplomatique, pas autant, mais suffisamment pour inquiéter à l'Élysée, où l'on admet que le compte n'y est pas et que la discussion s'annonce serrée. Et même chez les eurodéputés macronistes, la colère gronde. Jérémy Decerle, frère fraîchement élu est éleveur, ancien président des jeunes agriculteurs. Il y a une contradiction entre l'injonction à verdir nos pratiques tout en baissant nos revenus, dit-il, en interpellant vivement le président.
On va demander à l'agriculture d'accompagner encore la transition agricole déjà existante. Si on l'affaiblit en baissant le budget de la PAC, on fait l'inverse de ce qu'on lui demande. Donc, battez-vous.
Nous souhaitons aboutir lors de ce sommet à un compromis acceptable pour pouvoir avancer lors du prochain sur les autres dossiers, dit-on à l'Élysée, tout en précisant que cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Emmanuel Macron est attendu samedi dans les allées du Salon de l'agriculture à Paris. Pas sûr qu'il prenne le risque de s'y montrer sans avoir obtenu gain de cause sur le sujet.
L'agenda rural au cœur aujourd'hui d'un comité interministériel dans les Vosges. 7 ministres sont du déplacement, dont le premier d'entre eux, Édouard Philippe. Son gouvernement veut assurer le service après-vente de l'agenda rural présenté il y a 5 mois pour répondre au sentiment d'abandon des territoires ruraux. Rosalie Lafarge.
En campagne à la campagne, le gouvernement a 1 mois des municipales, la question peut au moins se soulever. L'équipe du Premier ministre la balaie, rien à voir avec le scrutin, qu'on soit à 1 mois ou pas, on avait dit qu'on viendrait faire des points d'étape après le lancement de l'agenda rural il y a 5 mois, premier point d'étape dans les Vosges donc. Au programme, la police de la sécurité quotidienne en milieu rural, les pompiers volontaires, les cafés, la santé ou encore le numérique et les zones blanches. Il y aura du neuf, nous dit-on, des annonces en matière de mobilité, notamment sur les petites lignes ferroviaires, en matière de haut débit aussi. Mais l'idée, c'est avant tout de vérifier que les premières mesures de l'agenda rural sont effectivement mises en œuvre. Matignon veut montrer qu'Édouard Philippe, et c'est son entourage qui le dit, n'a pas simplement lancé des annonces derrière un pupitre il y a 5 mois. Il faut voir si ça change vraiment le quotidien des Français dans les territoires concernés. Ce type de déplacement, avec de nombreux ministres déployés pour effectuer le suivi de cet agenda rural, ce sera tous les 6 mois, assure la rue de Varennes. Mais il apparaît évidemment d'autant plus crucial à l'approche d'un scrutin local, quand l'ambition affichée par les équipes du Premier ministre est la suivante, montrer aux territoires qui ont pu se sentir abandonnés qu'ils ne font plus aujourd'hui partie des oubliés.
Pas question d'oublier non plus le bassin d'emploi autour de Fessenheim. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, se rendra demain dans le Haut-Rhin à la veille de la mise à l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire. Comment démanteler une centrale nucléaire? C'est la question du jour que vous poserez, Guillaume Erner, je le rappelle, juste après ce journal au physicien Bernard Laponche. Mauvaise passe pour la division Défense et Espace d'Airbus qui produit des avions militaires et des satellites. La direction a annoncé hier la suppression de 2360 de postes, dont 404 rien qu'en France, c'est un peu plus de 5% de l'effectif dans l'Hexagone. Conséquence de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense, explique la direction. Les syndicats, eux, craignent des départs, Stéphanie Iglesias.
Dans la Ville Rose, l'annonce de ce plan de restructuration n'a pas vraiment surpris, même si les syndicats avaient cru comprendre il y a quelques semaines que l'entreprise ferait le gros dos en attendant des jours meilleurs. Ça fait 3 ans que le marché des satellites de communication recule et que nous ne vendons pas assez d'Airbus A400M, explique notamment la direction. Les syndicats s'étonnent du chiffre de 404 emplois supprimés en France. Ils craignent aussi des départs qui pourraient affaiblir les compétences des branches militaires et spatiales, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Syndicats et direction sont au moins d'accord sur un point, d'ici quelques années, les marchés seront à nouveau porteurs, avec notamment les constellations de petits satellites, la militarisation de l'espace, le système de combat aérien du futur. Il faudra donc à nouveau recruter d'ici quelques temps. Enfin, les syndicats interrogés espèrent des départs en douceur, comme la direction a toujours su le faire par le passé.
Arrêtons-nous à présent sur la 10e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Une grève qui pourrait être peu suivie en cette période de vacances scolaires, mais ce pourrait être le calme avant la tempête, car les syndicats opposés à la réforme réfléchissent à lancer une grève générale en mars. Le reportage à la permanence de la CGT-RATP avec Annabelle Grelier.
Des appels à la grève hebdomadaire, c'est surtout une façon de mettre le mouvement en veille et de reprendre un peu de force après un mouvement de plus de 2 mois et de salaire à zéro. Pierre Yacledjian, machiniste au dépôt de bus de Croix-Nivert, sera à la manifestation aujourd'hui, même s'il sait que la mobilisation sera faible.
On ne pouvait pas continuer en reconductible comme ça indéfiniment. Il fallait à un moment donné passer sur une autre forme d'action pour se faire la cerise.
Même son de cloche au dépôt de bus d'Ivry pour le machiniste Fabien Cormier.
Et là, aujourd'hui, nous, on est attaqué financièrement. On va pas bouffer des cailloux toute l'année. Par contre, le fait de retrouver une autre forme de mobilisation, quelle qu'elle soit, mais qui soit partagée par tous, oui, effectivement, on est en discussion.
En effet, la base des militants dans les unions départementales et locales s'interroge sur la manière de relancer le mouvement, qu'il soit illimité ou une semaine noire. C'est l'idée de la grève générale qui prévaut, public et privé, en même temps.
Ils ont repris la rage au ventre, les potes. Hein. Ils n'étaient pas contents de reprendre. Hein. Alors, forcément, repartir, c'est notre souhait. Mais voilà, c'est deux ou trois, on va pas faire tout repartir. C'est tous ensemble qu'on va faire repartir. Il faut effectivement qu'on parte tous ensemble. Pas que l'Île-de-France avec la SNCF et la RATP, ou pas que la SNCF nationalement, il faut que tout le monde soit ensemble.
C'est à la base de se prononcer, estiment aujourd'hui les instances fédérales des syndicats qui espèrent un mouvement de masse pour le mois prochain.
Et l'examen de la réforme des retraites a viré au blocage hier à l'Assemblée nationale, au troisième jour des débats. Les rappels au règlement et les suspensions se sont succédés dans une grande tension, empêchant l'avancée des travaux sur les 40 000 amendements déposés au texte du gouvernement. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'accorde ce matin un entretien au Figaro et où il dévoile sa feuille de route pour sortir de la profonde crise qui secoue son pays depuis un an. Et selon lui, le mouvement du Irak de contestation en Algérie a pratiquement obtenu tout ce qu'il voulait. Il n'y a pas eu de cinquième mandat présidentiel. Les visages les plus connus de l'ancien système sont également partis et la lutte a été engagée, dit-il, contre ceux qui ont mis l'économie à genoux. En attendant, les manifestants en Algérie espèrent de nouveau donner de la voix. Et pour beaucoup d'entre eux, le Irak était la première manifestation de leur vie. Leïla Berato a pu rencontrer certains de ces manifestants à Alger.
Nabil, 22 ans, étudiant à Béjaïa, n'a pas raté une manifestation. Et il dit que la mobilisation l'a formé.
Quand on débattait entre nous, je me sentais utile et je sentais, pour une fois, qu'on avait au moins la parole, l'accès à la parole. C'est-à-dire que nous, en tant que jeunes, on avait le droit de s'exprimer sans avoir à être adhérent à un parti. Pour moi, ça m'a permis de connaître déjà les tendances politiques. Je comprends les tendances, maintenant je comprends, je sais ce que c'est la droite, la gauche, l'extrême gauche. Je sens que j'ai une appartenance. Et j'ai mes idées politiques maintenant, je peux débattre.
Sandra, 44 ans, est enseignante à l'université d'Annaba. Elle aussi voit bien la différence un an après.
On a quand même acquis une certaine liberté d'expression. À la fac, c'est vrai que je râle beaucoup plus qu'avant. Et je sais qu'aujourd'hui, on se laisse pas faire. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on proteste beaucoup plus facilement. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on le dit.
Tous les deux seront dans la rue ce vendredi pour demander à nouveau le changement du système politique, mais aussi pour fêter cette année qui a, disent-ils, changé leur vie.
Leïla Berato à Alger pour France Culture. Le temps de ce jeudi 20 février, ensoleillé au sud, plus nuageux, voire pluvieux au nord. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 10 et 13 degrés dans la moitié nord de l'Hexagone, 13 à 18 au sud.